Bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue pour cette deuxième partie de Libre Journal de Benjamin Blanchard qui me fait l'amitié et la confiance de me confier son émission. Je le remercie, je remercie également Adrien Renoir qui est le présentateur habituel. Je suis Jean Hernis pour animer cette émission et avec moi ce soir j'accueille Bastien Dumont, historien. Bonsoir Bastien.
Bonsoir.
Et également François Charmeau que vous avez déjà entendu à ce micro. Bonsoir François.
Bonsoir Jean et bonsoir à tous les auditeurs.
Messieurs, j'ai décidé de changer un petit peu la formule de cette émission en bon pirate que nous sommes et je vous propose de parler aujourd'hui de l'ascenseur social. Est-ce un mythe? Qu'en pensez-vous? Qui veut commencer?
Eh bien je me dévoue.
Allons-y.
Alors effectivement c'est une petite révolution que vous menez alors que nous étions habitués à traiter plutôt les sujets d'actualité. Et donc évidemment dire ça c'est sous-entendre que la question de l'ascenseur social se place en dehors du champ de l'actualité. Alors en effet c'est le cas pour l'actualité telle qu'elle nous occupe immédiatement, une veille d'élection municipale, je crois que nous en parlerons aussi tout à l'heure, mais néanmoins, mais c'est la question de l'ascenseur social et plus largement de l'évolution sociale et de ses possibilités. À l'heure actuelle, c'est un véritable, dirais-je, serpent de mer de l'actualité. C'est une question finalement assez transversale qui touche aussi bien les sujets de l'économie, de l'éducation, du travail, du chômage, comme on le verra sans doute tout à l'heure, et plus largement, j'allais dire, de l'instruction. C'est aussi, finalement, un bon baromètre, de la société et des capacités qu'elle offre. Et plus largement, je trouve que c'est un témoin assez intéressant à observer, par-delà les époques, pour une raison très simple, c'est que c'est aussi, j'allais dire, un petit peu la promesse initial, le contrat social initial qu'on nous a vendu avec, alors je parle sous le regard de notre camarade féru d'histoire, mais qu'on nous a vendu avec la Révolution française, puisque c'était cette idée qu'on allait pouvoir dépasser sa condition, dépasser finalement, s'extraire de son ordre naturel. Donc nous sommes plus, depuis plus de 200 ans maintenant, il s'agirait effectivement de réagir, mais néanmoins, nous sommes plus dans une société ordonnée, dans le sens qu'elle n'est plus régie par des ordres, voilà, ceux qui prient, ceux qui font la guerre, ceux qui travaillent, mais par une somme d'individus qui évoluent dans un groupe social censé être basé sur les valeurs qu'on connaît bien, qu'on nous rabâche si souvent de liberté, d'égalité, etc. Donc c'est cette question de l'ascenseur social ou peut-être de l'escalier social tel que je pense qu'on arrivera peut-être à cette conclusion, elle est intéressante parce qu'elle est aussi finalement un baromètre et un bon révélateur de l'état où nous sommes avancés, j'allais dire dans la promesse initiale qui était celle de la Révolution française. Donc c'est un excellent choix de sujet, cher Jean.
Je vous remercie. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus de votre côté, Bastien?
Effectivement, pour rebondir sur ce que dit mon camarade François, il y a effectivement le contrat social tel qu'on le définit. Hein. Nous pensons à la date du 4 août 1789, la fameuse nuit de l'abolition des privilèges. Hein. Nous sommes passés effectivement à une société d'ordre, à une société entre guillemets égalitaire, et il y a derrière l'ascension sociale en fait un enjeu qui est très civilisationnel, qui pose la question justement du futur et de la manière dont on se conçoit collectivement en tant que société et comme une vision commune et collective, puisque effectivement cette notion peut aussi expliquer certains phénomènes sociétaux comme on l'a vu ces dernières années, notamment peut-être le mouvement des Gilets jaunes qui a une dimension autour du pouvoir d'achat. On le voit ces derniers temps avec notamment les mouvements autour du monde rural et les révoltes des agriculteurs. Peut-être aussi, si vous en souvenez, hein, des événements un petit peu épisodiques, mais qui annoncent peut-être un futur un peu plus conflictuel socialement, comme c'était le cas avec, par exemple, les bonnets rouges. Hein. Donc, on a toujours un peu cette dimension centrale, hein, avec cette définition qui est assez large de l'ascenseur social. Hein. C'est cette promesse de l'éducation, cette promesse du travail, de l'accumulation d'un patrimoine et de richesses par la force de travail, et aussi cette notion liée au futur, c'est-à-dire améliorer son niveau de vie par rapport à nos générations précédentes. Et en cela, effectivement, il y a cette notion un peu à l'heure actuelle peut-être d'arlésienne, ou comme on dit, de serpent de mer, puisqu'on a l'impression que depuis maintenant de nombreuses années, hein, peut-être on va dire une vingtaine d'années, l'ascenseur social est extrêmement abîmé, détérioré, et il n'y a pas cette notion d'augmentation en fait de niveau de vie ou du moins de croyance en un futur collectif. Donc je pense que c'est une émission qu'on pourra peut-être refaire dans un an, dans deux ans, qu'on aurait pu faire il y a 10 ans, mais qui reste un enjeu sociétal assez central.
Oui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on n'est pas tombé dans cet écueil tout de suite à parler de niveau de vie. L'ascenseur social, vous l'avez dit tous les deux justement, à quoi on mesure cet ascenseur social hein, finalement? Comment mesure-t-on une réussite socialement? Est-ce que c'est le niveau d'éducation? Est-ce que c'est le niveau de revenu? C'est vrai que le revenu dans une société fortiori capitaliste, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga, même si ça ne fait pas tout, et il y a également le rôle, l'utilité dans la société, finalement. Est-ce qu'on est plus utile ou moins utile que ceux qui nous ont précédés? Alors, sur l'argent, je vais vous donner une donnée que j'ai trouvée sur le net. Il faut 180 ans pour une personne des classes les plus pauvres pour atteindre le salaire moyen. Alors, après, on voit, on constate malgré tout que on a des améliorations, par exemple au niveau des bacheliers. On avait 5% de bacheliers en 1950, ils sont 80% aujourd'hui. Que pensez-vous de cela, messieurs? François, peut-être.
Oui, alors, effectivement, avant de rentrer vraiment dans le dur des chiffres que vous évoquez, simplement, je voulais conclure sur l'introduction, c'est que effectivement, il faut pas, je crois, avant de se lancer dans cette discussion, passer à côté du fait que la promesse d'ascension sociale, c'est vraiment un élément central de la tenue en fait du monde moderne et des sociétés actuelles. C'est-à-dire que c'est vraiment quasiment cette rupture anthropologique entre une époque où on vivait pour faire ce que doit, pour tenir sa place, tenir son rang, faire perdurer un modèle, une famille, un groupe, un clan, etc., à la société de l'individu et qui donc a pour but de s'améliorer, qui doit forcément être meilleur, c'est-à-dire selon les critères actuels, plus riche, plus établi, plus beau aussi, sans doute, que ses parents, et qui accepte à ce titre de l'être moins que ses enfants. Là, en disant ça, je crois que je résume quand même le projet de vie de beaucoup de nos concitoyens. Alors ensuite, pour répondre précisément à ce que vous disiez, Jean, typiquement sur le niveau des bacheliers, je crois que c'est des données qui sont effectivement intéressantes d'un point de vue sociologique, qui permettent peut-être de prendre le pouls aussi des tendances dans une société. Et néanmoins, je ne sais pas si, en étant un peu taquin, je ne sais pas si effectivement l'obtention du baccalauréat est vraiment une symbolique forte, notamment au vu des différences de proportion. C'est-à-dire que 5% seulement l'avait en 1950, mais combien, quelle est la proportion d'une classe d'âge qui le passait et qui le tentait. Je crois que c'est ça qui est intéressant d'étudier, plus que le taux d'obtention, sans parler évidemment du fait que le niveau a probablement drastiquement chuté.
Je pense malheureusement que le niveau est la vraie question centrale. On avait des gens qui avaient un certificat d'études qui parlaient, écrivaient impeccablement, bien mieux que nous d'ailleurs à ce micro, et qui aujourd'hui, un bachelier a parfois un vocabulaire bien trop limité par rapport à un ouvrier parfois des années 70.
Oui, et puis il y a aussi dans le cas du bac la question des leviers de rattrapage aussi qui se posent, hein, puisqu'il y a pour le coup une disparité de territoire sans rentrer forcément dans des éléments trop précis et nominatifs liés à l'éducation nationale, mais c'est de notoriété que selon certains établissements, on a un rattrapage, puisque le taux de réussite au bac évite de stigmatiser des zones considérées comme en éducation prioritaire. Donc pour cela, en fait, à partir du moment où on peut aussi créer des équivalences avec des options qui comptent pour le bac, que ce soit notamment des langues et des langues que certaines personnes vont posséder liées à leur patrimoine familial. Donc on pense notamment à des langues qui ne sont pas forcément liées à un projet éducatif, mais qui permettent de rattraper ces points, de la même manière avec notamment certaines options annexes. Donc à l'heure actuelle, c'est une question un petit peu d'une part de cursus, c'est qu'est-ce que l'on met dans l'identité bac, ça correspond à quoi? Puisqu'en fonction des lieux et des notations, en fait, vous avez même, pour un groupe d'élèves donnés, une notation qui est différente. Donc même à partir de cela, on a aussi cette notion de, même qui est à remettre en question dans le cas de l'ascenseur social.
François, je vous vois réagir.
Non, mais effectivement, je souscris complètement à ce que vient de dire notre camarade, et plus largement, je trouve ça intéressant que vous ayez choisi vraiment l'obtention du bac comme, comme porte d'entrée dans cette question de la censure sociale, parce que c'est précisément, en tout cas au XXe siècle, et suite aux deux conflits mondiaux, c'est vraiment le mythe qui s'est mis en place, celui des études supérieures, et cette idée que il était finalement normal et nécessaire et incontournable pour chacun de pousser les études supérieures, d'obtenir effectivement le baccalauréat et ensuite bien entendu d'intégrer la faculté, l'université, et c'est ce qui a conduit aussi à la situation d'emploi et de compétences surtout qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire que effectivement il y a eu tout un pan du XXe siècle qui a sans doute débuté en effet dans les années 50, mais peut-être un tout petit peu plus tard, où c'est devenu vraiment une norme sociale d'aller à l'université, de fréquenter voilà la faculté, d'espérer obtenir un diplôme supérieur, etc. Et c'était devenu incontournable. Et c'était vraiment devenu une voie de garage que de privilégier un métier manuel. Et c'est d'ailleurs intéressant. Je prends un exemple qui est celui de la cuisine. À l'heure actuelle, évidemment, bon, les émissions de télévision, pardon, ayant fait leur chemin, la cuisine est redevenue un petit peu plus à la mode. Donc,
La
pâtisserie spécialement, mais c'est toujours intéressant d'écouter ceux qui sont aujourd'hui les grands chefs français raconter leurs années d'apprentissage dans les années 70, 80, 90, à l'époque où eux étaient vraiment vus comme des moins que rien. Et finalement des ratés qui n'iraient jamais à la faculté, qui étaient demi-illettrés, etc., presque électeurs du Front National, et qui maintenant sont devenus de véritables stars de par leur métier. Donc on voit bien que les temps changent, les époques changent, et donc le rapport aux études a lui-même changé et a induit, je crois, des générations entières en erreur sur ces questions, pour produire la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est exclusivement tournée vers le service, vers le tertiaire, et qui a perdu quand même beaucoup, beaucoup de ses forces vives en termes de savoir-faire, de compétences vraiment techniques, manuelles. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile de trouver, en fonction des régions, c'est quand même de plus en plus compliqué de trouver des charpentiers dignes de ce nom. On voit bien que le personnel dans tous ces métiers manuels d'exception, qui ont fait aussi la France, a vraiment baissé en quantité et donc nécessairement en qualité.
Oui, et puis des personnels qu'on a vus notamment sur des chantiers, on pense par exemple le chantier d'exception de Notre-Dame de Paris, bon on dévie un peu de notre sujet, mais tous ces gens-là, des corps de métier d'exception, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. On parlait comment on mesure-t-on la réussite, on la mesure bien souvent de façon sonnante et trébuchante, donc le salaire. Un plombier à Paris gagne très bien sa vie. Un plombier n'a pas nécessairement le bac, il peut avoir un CAP, un BP, ça lui permet de monter sa propre entreprise. Un BP, c'est un brevet professionnel. Donc, c'est un diplôme qu'on obtient après le CAP, en une année. Donc, c'est en trois ans, vous pouvez être formé sur un métier et apte à ouvrir une entreprise. Ce n'est pas le cas de tous les gens qui passent un CAP et un BP, parce que il faut être également malin, il faut avoir un facteur de chance, comme dans tout. Et il y a aussi un facteur d'un bagage, d'un bagage scolaire, qui permettent de tenir une entreprise. On ne tient pas une entreprise qu'avec un savoir-faire manuel. Il faut un savoir-faire, un savoir-être également, et des savoirs théoriques, notamment sur la loi française et sa législation. Je n'apprendrai à personne la difficulté du code du travail et de tous les codes des impôts annexes. Et on a de nombreux artisans qui peuvent se brûler les ailes, même parfois sans le vouloir, en n'ayant pas suivi certaines...
Oui, mais vous dites qu'on dévie du sujet en parlant de ça. Moi, je suis vraiment en moitié d'accord, parce que j'allais dire on clôture presque le sujet. Parce que
en parlant de Notre-Dame, j'en dévie.
Oui, pardon.
Allez-y, je vous en prie.
On voit bien avec cette question des artisans qu'il y a eu quasiment l'ascenseur. En fait, il est reparti vers le bas. C'est une inversion complète de l'échelle des valeurs. C'est-à-dire que concrètement, il est possible aujourd'hui de mieux réussir sa vie, en tout cas du point de vue des critères actuels, qui sont pas d'ailleurs nécessairement les nôtres, mais enfin bon, passons, en prenant un parcours en effet technique, manuel, d'apprentissage, quand fréquentant une école de commerce. Enfin voilà, c'est pas extrapolé que dire ça. Je crois que c'est vraiment une réalité aujourd'hui du marché de l'emploi, notamment post-études pour les jeunes. Donc c'est une véritable révolution, c'est un vrai changement par rapport aux années 60, 70, 80.
Mmh. Et même la fonction publique, pendant très longtemps, devenir fonctionnaire, je ne sais pas que c'était un but en soi pour chacun, mais dans de nombreuses familles, on se disait, tel enfant, peut-être si on le place aux impôts, devenir professeur, devenir policier ou autre, c'était une sorte de garantie sociale. C'est plus le cas aujourd'hui.
Ouais, là, pour le coup, il y a effectivement, après les années 70, il y a une forte politique autour de la tertiarisation de la société, avec cette croyance inhérente selon laquelle on n'avait plus besoin d'industrie. Donc, on se souvient, au début des années 2000, hein, la vente notamment de notre sidérurgie, hein, vous savez, ArcelorMittal, tout un petit peu nos pôles stratégiques qui progressivement ont été délocalisés. Donc, on a une perte de souveraineté, hein, forcément. Et dans le cas, effectivement, du chantier de Notre-Dame, si vous vous rappelez, il y a un petit élément qu'on peut mettre en parallèle, c'était au moment de la fermeture de Fessenheim, lorsqu'on avait notamment des centrales nucléaires de nouvelle génération qui ne pouvaient pas fonctionner, puisqu'on avait un déficit notamment de soudeurs. Vous savez, de soudeurs vraiment dans un pôle très 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 précis. On devait attendre que des soudeurs polonais viennent ou faire appel à des techniciens venant des États-Unis ou venant d'Asie. Et donc, je m'en souviens, pendant presque 6 mois, on avait comme ça des centrales à l'arrêt parce qu'on n'était même plus capable de produire un petit peu ces techniciens vraiment de haute précision, puisqu'on n'avait plus les instituts de formation, puisque c'était des filières qu'on avait délaissées, ou même on avait effectivement cette croyance selon laquelle c'était réservé à une sous-classe de l'Upen prolétariat. Après, j'aurais tendance un petit peu à nuancer dans le sens où j'ai l'impression que depuis quelques années, pour le constater un petit peu sur le terrain, il y a un retour un petit peu, ou du moins des formations d'alternance, avec une volonté un petit peu plus politique de, du moins, redistribuer les étudiants vers des formations plus courtes, ou du moins aussi une forme un peu de réinsertion professionnelle avec de nombreux étudiants qui sont passés par les études universitaires et qui se rendent compte que finalement ça ne débouche sur rien et se tournent vers, bah, je sais pas, vers le CNAM, vers des choses comme ça, pour essayer de faire des cours du soir et plutôt se tourner vers ce type de profession. Ça prend du temps, mais j'aurais tendance à penser qu'à l'heure actuelle, l'université a plutôt mauvaise presse et n'est plus forcément une filière de choix ou recommandée.
Une filière définitivement inadaptée au monde du travail, bah, en grande partie, hein, il y a toujours des exceptions à ce qu'on affirme, mais c'est certain. Je vais donner quelques petites données chiffrées. Alors, j'aime pas trop ça, mais je pense que c'est intéressant de voir ça. Ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on a toujours, selon l'INSEE, un ascenseur social qui a fonctionné notamment chez les femmes, parce que chez les femmes, pendant très longtemps, elles n'ont pas travaillé. Donc, on a une amélioration des revenus, notamment liée aux politiques des entreprises pour améliorer l'égalité professionnelle homme-femme. Donc, on a ces choses-là, mais en fait, que disent les chiffres? Ça n'en reste que des chiffres, de voir que les jeunes adultes gagnent actuellement 0,25% en plus que leurs parents. Je veux dire, tout ça, c'est dans des contextes où l'inflation explose et elle n'est pas forcément comptée correctement. Je trouve que c'est assez hypocrite de l'INSEE nous expliquer que les plus jeunes gagnent mieux que leurs grands-parents à l'époque. Bon, c'est un petit peu flou. Et c'est surtout la grande question, ça va être avec tout comment dire, le patrimoine, avec quand la classe des baby-boomers disparaîtra, toute cet argent, cette masse d'argent qui va revenir sur la table, tout ce patrimoine qui reviendra surtout pour les caisses de l'État qui se servira en grande partie, évidemment.
S'il n'a pas été dépensé par cette génération, quand même, c'est addict à la consommation.
Aussi. Et c'est surtout comment ben on voit que les actifs n'ont jamais été si peu propriétaires en France. Et c'est aussi un élément qui me fait penser que l'ascenseur social est en panne. Je veux dire, qui peut, dans une grande ville, acheter un appartement ou même acheter un moyen de locomotion comptant sans faire d'emprunt bancaire?
C'est-à-dire qu'effectivement, pour être complet sur la question de l'ascenseur ou de l'ascension sociale, il faut vraiment essayer de brasser large. Qu'est-ce que la bonne vie à l'heure actuelle? Alors effectivement, si on prend la question typiquement des femmes, en effet, je pense que dans le monde du travail purement, c'est plus confortable d'être une femme en 2026 qu'en 1980, en effet. Néanmoins, est-ce que pour autant une femme de 2026 vit mieux que celle des années 80 ou celle des années 20? La question de mérite d'être posée. Alors, je suis pas historien et c'est jamais bon de comparer, voilà, les époques à travers un individu ou à l'échelle d'un individu, mais néanmoins, on voit bien que le mode de vie imposé, j'allais dire, actuel, ne rend pas les gens heureux. Il n'y a jamais eu autant de maladies mentales, de syndromes de dépression, c'est-à-dire un sujet de santé publique reconnu par l'État. Il n'y a jamais eu autant de suicides chez les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de précarité, parce qu'en effet, je pense qu'on a lu la même étude de l'INSEE, l'emploi des jeunes a augmenté, mais c'est aussi précarisé, puisqu'on parle d'emploi court, on parle d'une flexibilité du marché du travail qui est devenue complètement délirante. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, signer un CDI, c'est plus du tout la même valeur, même symbolique, que ça a pu être par le passé. Donc, où est le curseur de la bonne vie? On voit bien que c'est un ensemble constitutif, finalement. Effectivement, il y a un bien-être matériel, mais il y a aussi un bien-être moral qui, lui, est basé sur une vision du monde, la capacité à comprendre sa place, la place qu'on occupe dans ce monde, la place qu'on va y tenir, à quoi sert-on, finalement, réellement. Tout ça, ce sont des questions très personnelles, souvent transcendantales, et aussi d'ordre spirituel. Donc, dans une société qui est celle du nihilisme, de la consommation, du paraître, du narcissisme, etc., promu et mis en avant, effectivement, c'est plus compliqué, je crois, aujourd'hui, d'être heureux, quel que soit, finalement, le niveau de vie. Or, le but précis de l'ascension sociale, je crois quand même que c'est celui-là, c'est la recherche du bonheur et cette idée qu'à l'étage au-dessus, finalement, il fait plus chaud, on se sent mieux, les enfants vont mieux, les enfants sont plus cultivés, etc. Or, aujourd'hui, je crois pas qu'avoir de gros revenus soit la garantie que vos enfants sachent lire. Et c'est tout le problème, c'est qu'il y a eu un effondrement complet.
Pour que vous-même sachiez lire,
oui, tout à fait.
Quand on voit certains exemples promus au niveau des influenceurs, de candidats de télé-réalité, de mannequins, même d'actrices porno, ou de gens de toute futilité, des sportifs de haut niveau.
D'hommes politiques.
Hein. D'hommes politiques également, qui ont des revenus délirants, parfois qui peuvent être 1 000, 100 000 fois supérieur à celui d'un ouvrier de base et d'un ouvrier qui est bien plus utile à la société. C'est des vraies questions à se poser.
Donc, pardon, après je m'arrête, mais effectivement, la question de l'ascension sociale, en fait, plus largement, elle touche à celle de cette recherche de bonheur, de bonne vie ici-bas. Et en effet, elle ne peut pas se résumer au niveau d'études ou au niveau de rémunération et de revenus annuels. Tout ça, ce sont des pis-allers mis en avant, effectivement, par la politique politicienne, par le monde actuel tel qu'il est. Mais on voit bien, et il suffit de regarder autour de soi, il y a quand même, je pense, assez peu de monde, finalement, qui a touché le Graal de cette magnifique vie de consommation hédoniste, épicurienne, qu'on nous vend pourtant en longueur de journée.
Ben, effectivement, je trouve ça intéressant, parce que la définition même d'ascenseur social, hein, pour revenir un petit peu là-dessus et ce que tu dis, François, c'est à croiser avec tout un tas de données et d'éléments. Alors effectivement, d'un point de vue purement économique, est-ce que c'est l'augmentation de son patrimoine lui-même en ayant comme point de comparaison celui de nos parents ou de nos ancêtres? Est-ce que c'est une dimension purement économique? Est-ce que c'est lié au pouvoir d'achat? Est-ce que c'est lié au niveau de vie? Est-ce que c'est lié à la considération sociale, avoir un cercle d'amis, avoir une reconnaissance, des prix, un statut? Est-ce que c'est lié aussi à l'espérance de vie? Dans le cas d'une société, on sait qu'à l'heure actuelle, l'espérance de vie, elle se limite. Alors, je crois, pour un homme, on doit être à 79 ans, pour une femme, on doit être à autour de 86, mais on a même une espérance de vie qui commence même à stagner, voire à diminuer. Est-ce que c'est lié à l'accès aux soins? Est-ce que c'est lié au transport? Est-ce que c'est lié justement à cette capacité un petit peu à changer de lieu? Est-ce que c'est lié aussi à la capacité à innover? Longtemps, on a vanté, par exemple, le modèle scandinave comme le meilleur modèle mondial, hein, puisqu'on sait que notamment certains pays nordiques, comme la Suède ou la Finlande, qui n'est pas un pays scandinave, mais avaient le plus haut taux d'innovation par habitant, donc avec cette capacité comme ça à créer tout un tas de nouveaux produits, donc c'est-à-dire encourager la créativité, ça aussi, ça peut l'être. Hein. Est-ce que c'est lié aussi à la production peut-être de personnages qui vont marquer l'époque, comme ça a été le cas dans le passé, hein, c'est-à-dire des intellectuels, des écrivains, des artistes, des musiciens. Voilà, donc en fait, quelle définition veut-on mettre à ce terme, et surtout, encore une fois, quel projet collectif? Pour moi, l'ascenseur social a vraiment une dimension de groupe et de collectivité, c'est-à-dire en fait vers quel futur et quel projet souhaitons-nous tous rêver collectivement avec cet ensemble de données. Et c'est là où, effectivement, il y a tout un tas d'indicateurs qui nous montrent que l'ascenseur social est en très mauvais état en France, ne serait-ce que le nombre d'actifs par rapport au nombre dynamique d'actifs. Hein. Vous savez, en France, on doit avoir à peu près 28 millions d'actifs sur une population à peu près de 70 millions. Donc, on a un écart qui est assez énorme. Hein. Est-ce que c'est lié au salaire moyen? Est-ce que c'est lié à l'accès aux soins? Quand on voit dans certains hôpitaux, vous pouvez attendre 8 heures pour les urgences.
Et 5h30 en moyenne, ouais, les urgences à Paris.
Voilà, 5h30 en moyenne. Ah. Donc ça aussi, ça pose des questions, quoi, justement, en comparaison par rapport à des modèles passés, notamment le modèle français qui nous a toujours collectivement dit vous allez avoir, vous allez contribuer davantage à la société de par la citoyenneté, de par les impôts, de par tout un tas de projets, de droits, de devoirs, mais en retour, on va vous donner accès à une éducation, on va vous donner accès à des soins qui seront meilleurs que dans d'autres projets de société. Et à l'heure actuelle, on remarque que, justement, ces éléments-là se cassent. Dans le cas de l'éducation, on sait, par exemple, à l'heure actuelle, il nous manque, je crois, à l'heure actuelle, 30 000 postes à pourvoir. Et dans certaines disciplines, notamment les mathématiques, bah là, c'est 15 000 enseignants qui manquent. Donc, en fait, on a tout un tas de petits indicateurs qui, mis ensemble, bah voilà, nous montrent que bah, malheureusement...
Quand on rassemble le puzzle, c'est pas reluisant.
Exactement.
Vous parlez de l'éducation, c'est aussi intéressant. On parlait du bac tout à l'heure, mais il y a aussi le seuil d'en dessous, c'est le collège. On parlait de l'apprentissage, qui est de plus en plus plébiscité pardon, pour réussir professionnellement. Alors, on ne devient pas forcément cadre, mais on peut être entrepreneur. On peut faire de belles carrières même en tant qu'ouvrier dans plein de métiers de l'artisanat. Mais avant tout cela, il y a le collège, et notamment le collège en France qu'on connaît unique, et à contrario, le modèle allemand, où on met, on a ce gymnasium où les enfants sont classés selon leur niveau, et où on privilégie très vite des filières professionnelles, avec la possibilité de revenir sur des filières plus scolaires après quelques années. C'est bien plus complexe. Est-ce que là aussi, on a une possibilité, on parlait de le collège unique avait été pensé justement dans un idéal républicain d'élévation massive. Est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre en cause ce collège unique pour recréer un projet de société, selon vous ?
Je crois que pour un jeune adolescent, ou même pour un vieil enfant, il n'y a rien de plus difficile que de choisir. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que l'éducation positive a ses limites. C'est-à-dire que fondamentalement, les enfants, les jeunes adolescents, 10 ans, 12 ans, ne sont pas mûrs, ne sont pas encore faits ni prêts pour avoir à prendre des décisions vraiment lourdes et importantes. Alors évidemment, choisir le goûter, bon, ça devrait aller. En revanche, se décider pour ses études, pour plus tard, etc., c'est extrêmement compliqué. Donc, comment, à ce moment-là, mettre en place une spécialisation ou plutôt. Il y a un modèle qui n'est absolument pas, je crois, parfait, mais qui a essayé, en tout cas, c'était le modèle, figurez-vous, soviétique, puisque les écoles étaient spécialisées quasiment dès le cours préparatoire, entrant dans une école, voilà, spécialisée sur la chimie, sur les langues, sur ceci ou sur cela, et on n'avait pas le choix, il fallait de toute manière finir sa scolarité dans cette école, et c'était comme ça. Bon, ça c'est un modèle très mécanique, enfin, communiste finalement, de société, donc c'est pas, je crois pas que ce soit vraiment, comme le communisme en général, tellement taillé pour la bonne réalisation de la nature humaine, mais néanmoins...
Précisons que nous ne conseillons pas ce modèle, clairement.
Non, pas du tout.
Avant que nos auditeurs nous insultent par courriel.
Bien au contraire, ce que je cherche en revanche à dire, c'est que effectivement, on a par le passé, à travers certains exemples, comme peut l'être l'exemple communiste, mais comme peut l'être aussi l'exemple en France peut-être de la corporation, du compagnonnage, on a mis en place, effectivement, on a tenté des systèmes qui permettaient aux gens finalement de ne pas avoir ni à choisir ni finalement à se poser trop de questions, c'est-à-dire que voilà, on essaie dans une famille je sais pas, de charpentier, alors voilà, bon ben l'aîné faisait ci, le cadet faisait cela, le petit dernier ou la petite dernière faisait encore autre chose, et c'était comme ça, et c'était bien comme ça, et en fonction de sa position à la fois sociale et familiale, eh bien on savait à peu près, peu ou prou, à quelque chose qu'on allait te manger. Alors évidemment, il y avait toujours la place pour l'expression du talent, celui qui était excellent, et bien probablement surnager, réaliser un chef-d'œuvre peut-être plus tôt que ses camarades, etc. Bon. Avec cette idée de progrès social permanent, d'ascenseur social, évidemment ce que je viens de dire ne vaut pas, puisqu'il faut que chacun puisse choisir la branche, le secteur qui lui plaît le plus en fonction de ses envies. Il faut qu'il choisisse son orientation. Voilà. Donc évidemment, on place des jeunes gens face à un choix terrible. Moi-même, comme je crois tout le monde, hein, je suis passé par là, vous vous retrouvez à 17, 18 ans et on vous explique que voilà, maintenant il faut choisir le métier qu'on va faire, mais on n'a rien appris, on ne connaît rien au monde, on vit dans une bulle depuis effectivement le collège, donc finalement dès la sortie de l'enfance, on place dans une bulle d'enseignement général. Et je reviens, je ne vais pas tirer sur un bilan, je ne reviens pas sur sa qualité, dans le public en tout cas. Et effectivement, là, tout d'un coup, vous devez choisir un métier. Alors, je vais être avocat, magistrat, etc. Bon, c'est effectivement très compliqué. La plupart des gens se décident bien plus tard et font pour ça des études et des re-études, etc. Bon, tout ça fait marcher un système aussi économique derrière. Donc, bon, ça s'est créé comme ça. Néanmoins, pour répondre à votre question, en réalité, il n'y a pas de gros changements possibles sur cette question d'orientation, de formation des jeunes et donc du collège unique, sans un changement bien plus large qui serait un changement sociétal et encore une fois de vision de la vie, de vision du monde et de vision de l'utilité de chacun.
Pour revenir aussi là-dessus, il y a une autre dimension de l'ascenseur social qui est liée à la fois au patrimoine, mais aussi dans le cas des études, aux écoles que vous avez pu fréquenter et aux réseaux que vous avez réussi à tisser.
Au certain déterminisme social.
Un petit peu déterminisme social, mais aussi déterminisme lié notamment à votre capacité à vous vendre et à créer en fait un tissu d'entraide. On le voit notamment, pour un exemple très récent, vous connaissez l'ancienne directrice du Louvre, Lorraine Descartes, qui maintenant a démissionné. En fait, c'est une amie d'Emmanuel Macron, ils se connaissent depuis leurs études. Voilà, enfin, je ne sais plus à quel moment, je ne sais plus si c'était à Sciences Po ou quelque chose comme ça, mais on se rend compte qu'en fait, dans le cas d'un système un petit peu à la française, bah, si vous avez fait l'ENA, si vous avez fait Sciences Po, si vous avez fait X Polytechnique, en fait, vous arrivez à, en plus d'une forme de compétence, à tisser des liens qui vous permettent ensuite, même des années plus tard, à avoir des postes, à pourvoir notamment des postes de direction et de cadre, mais qui ne sont pas forcément corrélés avec vos compétences. L'exemple du Louvre est très frappant, hein, quand on voit la situation à l'heure actuelle du musée, avec des fuites d'eau, avec encore une salle qui a fermé à cause des problèmes techniques, avec le cambriolage. C'est-à-dire, on se demande comment une personne comme cela, enfin, je ne vais pas l'attaquer, ce n'est pas le but, mais... Et pu rester aussi longtemps sans démissionner et sans qu'il y ait eu un petit peu de mouvement politique poussant à cela. C'est-à-dire qu'en fait,
oui,
on
ou
a,
syndical, mais voilà, une réaction bah forte oui, en interne. Dire.
Exactement. Et au Louvre, on savait que ça fait des années, mais là d'ailleurs, vous pouvez y aller, ça fait des années que le Louvre est régulièrement en manifestation ou que le musée est fermé parce que le personnel se plaint de problèmes de management, de problèmes un petit peu au niveau des cadres. Et pour autant, on a un peu cette impression qu'il n'y a pas de changement. On peut se poser la même question dans le cas de l'actualité, par exemple, avec Jacques Lande, par exemple. C'est-à-dire comment un personnage a pu rester aussi longtemps à ses fonctions alors que pourtant... Donc, je pense qu'il y a aussi une petite dimension comme ceci.
C'est la question, effectivement, ouais. du copinage.
Oui,
en fait, compter les réseaux. Mais en fait, moi, je serais moins catégorique là-dessus. Je crois que pour le coup, c'est peut-être un des vestiges de la corporation. Moi, ça me choque pas, en effet, qu'il y ait une forme de fidélité, et c'est sans doute très français, dans un même corps d'État. Entre personnes, de la même façon qu'une promotion de l'ENA va logiquement se renvoyer l'ascenseur, je crois que c'est la surprise qui est surprenante face à ce genre de choses. De la même façon que c'est vrai pour l'ENA, je crois que c'est vrai aussi pour une classe d'âge qui bah, un exemple, les charpentiers qui ont refait la charpente de Notre-Dame de Paris, puisqu'on a évoqué ça. Bon, il s'agit en réalité de 5-6 entreprises qui ont accepté de collaborer, qui sont sur le papier concurrentes, mais en réalité tout le monde se connaît.
Bien sûr.
Parce que tout le monde a fait son apprentissage au même endroit, et donc finalement le travail commun n'a pas été si compliqué. Et la France, et c'est peut-être aussi la beauté de ce pays, je crois, elle est faite comme ça de microcosmes où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Et en effet, alors. Normalement, peut-être ce qui nous manque, c'est le sens du travail accompli, du beau, du bien, etc. Ce qui fait qu'en effet, celui qui est mis en avant, le déterminisme, il est social, mais il est avant tout basé sur les compétences. Peut-être que là, le problème porte sur le fait que, non pas qu'il y ait en effet du copinage et des phénomènes de groupe et de casse, mais plutôt sur le fait qu'il y a un déterminisme comportemental. C'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, mais sans être forcément la bonne personne.
Vous parlez du bon endroit, et je pense, François, que vous avez évoqué un bon point. Tout à l'heure, Bastien, vous disiez en préalable de notre, en introduction de ce sujet, qu'il s'agissait avant tout d'un projet collectif. Et je pense qu'actuellement, c'est là où le bât blesse réellement en France, c'est sur le projet collectif, l'emploi collectif en France. Et en fait, là, bon, nous sommes en Île-de-France, dans une région qui est la première région économique du pays, où on a encore des industries, on a un secteur tertiaire évidemment très florissant, et où on a tout un tas de, même le secteur primaire est encore présent, même si ce n'est pas ce qu'il a été avec Disneyland, plein de choses qui peut expliquer qu'il ait diminué ces dernières années, l'expansion des logements, etc. Mais le premier facteur d'inégalité sociale en France actuellement, c'est l'emploi, et notamment dans certaines régions, on parlait de la fermeture de ArcelorMittal, on peut penser au bassin minier, on peut penser aux chantiers de l'Atlantique qui sont morts ou quasiment, et toutes ces choses-là. Est-ce que cette inégalité territoriale, on pense à certaines régions de France, par exemple l'Ardèche qui n'a pas de train, comment développer un secteur économique dans une région qui n'a pas de train, par exemple ? Bastien, peut-être ?
Ouais, alors ça, c'est la grande question autour, vous savez, des lois de centralisation et de décentralisation. Constamment, on nous ressort... alors, c'est pareil, c'est une arlésienne, hein, je me rappelle déjà au gouvernement Jospin qui avait mis un petit peu dans ce sens, mais la réalité des faits, c'est comme vous le dites, c'est que la France reste historiquement, et ça remonte à Philippe Auguste, même peut-être avant encore, à Neustrie ou les premiers Capétiens, mais la France reste un pays extrêmement centralisé. Donc là ce sont des questions qui sont extrêmement complexes dans ce cadre-là, puisque à partir du moment où l'ensemble du gouvernement est situé à Paris, où toutes les décisions sont à Paris, et qu'on a un maillage territorial qui est extrêmement complexe, avec tout un tas d'acteurs qui par moments se font concurrence, là ça pose en fait un petit peu ces questions de développement entre la région, les communautés de communes, entre le département, entre les municipalités. Vous savez, la France, c'est aussi le pays d'Europe qui a le plus grand nombre de communes. La majorité des communes ont moins de 1000 habitants, il y en a plus de 36 000. Donc là on est sur des questions qui sont extrêmement complexes.
Mais ce millefeuille territorial, ça permet aussi l'ascenseur social. C'est-à-dire que vous êtes maire, vous passez chef de la communauté de communes, vous passez député, député-maire, vous finissez sénateur et c'est super.
pour rebondir sur ce que vous disiez, Jean, alors, en fait, cette disparité économique en fonction des régions en France, elle commence à être simplement elle commence à être très visible. Chaque année qui passe la rend, j'allais dire, encore plus palpable. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a 15 ans, on n'a pas la même jeunesse en habitant le 15e arrondissement de Paris qu'un petit village au fin fond de l'Ardèche. J'enfonce une porte ouverte. Alors ça a toujours été probablement un petit peu le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, la différence est encore plus accentuée. Et elle ne repose plus seulement sur le fait de savoir si on est un enfant de médecin ou d'agriculteur, mais aussi tout simplement par le fait qu'on est dirigé, je crois, par une classe politique depuis un certain nombre d'années qui ne considère plus du tout les régions françaises comme étant un sujet de réelle préoccupation. Paris est vu comme une capitale mondiale. La France, de ce point de vue-là, est sans cesse, on nous ramène sans cesse à la petitesse de la France en comparant systématiquement, en disant combien de fois on peut mettre la France dans tel pays, etc. Donc, on nous fait quand même bien souvent comprendre que ce qui compte, c'est d'avoir une grande ville, Paris, peut-être deux, trois autres villes comme Lyon et Marseille, qui en effet, tiennent leur rang européen et puis mondial. Le reste compte un peu. Pour répondre plus précisément sur la question que vous posiez, au sujet de recréer une dynamique économique dans des régions effectivement un petit peu enclavées, il y a des essais qui sont menés en permanence sur le localisme, sur le tourisme, mais encore une fois, c'est un prisme extrêmement basé sur le service, le tertiaire, le folklore. Donc petit à petit, ça contribue aussi à faire de notre pays une fête foraine à ciel ouvert avec un musée. C'est un concours de commerciaux en folklore permanent. C'est bien dommage, mais tout ça, ce sont les conséquences des politiques menées ces dernières années, y compris, et il faut quand même le dire à un moment donné, y compris et surtout, oserais-je dire, par les gouvernements de droite.
Tout à fait.
Je vous remercie, messieurs. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième thème. Donc, un thème qui est assez éloigné, mais finalement, est-ce que le trafic de drogue n'est pas une forme d'ascension sociale? Non, je serais très provocateur
c'est
de
une fusée pas. Sociale.
Je vous rassure, vous n'êtes pas sur une radio de financée et subventionnée d'extrême gauche qui vous expliquerait que la drogue est un trafic bénéfique et qui permet aux jeunes de s'épanouir. Mais toujours est-il que la DZ Mafia, ce groupuscule marseillais créé dans les années 20, 2020, hein, j'entends, pardonnez-moi, à Marseille, plus précisément dans le 15e arrondissement de Marseille, DZ qui fait référence à l'index téléphonique de l'Algérie. Cette mafia qui vend de la drogue, qui s'apparente un petit peu à une hydre, qui s'est étendue sur tout le territoire, tout d'abord marseillais, puis dans des cités au nord de Marseille, et pour s'étendre sur tout le territoire français avec des ramifications plus ou moins assumées et opaques, qui s'est fait connaître par des vidéos, donc par des prises de trafic de drogue, par des vidéos où on mettait en scène une certaine violence, où on assumait un rapport direct à l'État, où on recrutait notamment des jeunes rabatteurs et revendeurs de drogue par une théâtralisation sur les réseaux sociaux, beaucoup de films, beaucoup de violence. C'est des trafiquants qui se sont fait connaître notamment en incendiant les voitures des gens qu'ils avaient abattus. Donc il y a toute une théâtralisation qui est très très cinématographique même. Et cette semaine, on a assisté à un véritable coup de filet avec une quarantaine de personnes interpellées qui ont débouché sur 25 mises en examen et 18 mandats de dépôt. Qui veut commencer par parler de la DZ Mafia? Bastien, je vous en prie.
Eh ben, alors, c'est assez. Il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants, mais aussi extrêmement alarmants dans ce phénomène. C'est déjà le nom, en fait, effectivement, DZ Mafia, comme l'a dit, DZ qui fait bien sûr référence à Algérie, mais en fait, ce groupe n'a pas un fonctionnement exactement qui s'apparente à une mafia. On est plus sur une inspiration qui est très proche de ce qu'on peut retrouver en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou du moins en Amérique latine, c'est-à-dire à la fois avec un fonctionnement type des cartels. On le voit à la fois dans leur procédé, hein, c'est-à-dire le fait de faire effectivement des coups d'éclat, de filmer, de diffuser tout un tas de vidéos horribles, hein, notamment des fois des opposants qui vont arrêter, qui vont massacrer et ensuite brûler les restes dans une voiture, hein, la fameuse technique du barbecue. Le fait aussi que ce soit une marque, ce qui fait que effectivement il y a un côté très tentaculaire et on est presque dans une hydre, puisque c'est extrêmement difficile de savoir exactement quelle personne est rattachée ou non à la DZ Mafia, puisqu'on l'a vu quand les médias ont commencé à en parler, dans certaines cités qui pourtant n'avaient aucun lien avec les cités du Sud, certains dealers commençaient à taguer DZ Mafia ou à se revendiquer de la DZ Mafia sans forcément être en contact. Donc on voit qu'on a effectivement une forme d'internationalisation et de mondialisation du crime, avec le modèle qui fait rêver, c'est celui de Scarface de Brian De Palma, hein. Vous savez, cette espèce de dealer de drogue internationaux, ce modèle de Pablo Escobar qu'on a retrouvé en Colombie, avec des ramifications, puisqu'ils arrivent à exporter notamment de la cocaïne depuis la Colombie, transitant notamment par des pays comme le Venezuela ou encore venant du Mexique, hein. Et effectivement, la différence avec d'autres éléments liés au narcotrafic avant les années 2020, c'est que c'était extrêmement localisé et on était plus dans un fonctionnement lié à des quartiers et des cités. Là, à la différence des autres, la DZ Mafia veut s'exporter et on le voit depuis quelques années. Ils ont commencé par Marseille, on les a retrouvés à Nîmes, on les a retrouvés maintenant à Clermont-Ferrand. On a eu peut-être aussi des soupçons, notamment à Rennes. Et donc, il y a vraiment cette volonté d'en faire, à la fois, comme je vous disais, une marque, mais aussi de s'exporter et de toujours plus agglomérer de personnes. Autre élément aussi qui est extrêmement problématique, c'est le fait de s'introduire dans la société comme le faisait notamment Pablo Escobar ou comme le font des chefs de cartel au Mexique. C'est-à-dire à la fois de payer des biens pour les habitants de la cité, organiser des fêtes, faire venir des rappeurs, le fait aussi de corrompre des fonctionnaires, voire d'envoyer des personnes proches de leur milieu qui vont investir des postes clés. Que ce soit là, notamment dans le cadre des élections municipales, faire très attention qu'il n'y ait pas notamment de colistiers qui soient directement en lien. On le voit dans le cas du barreau, avec notamment dans le cas du coup de filet, un avocat, Maître Kamel, qui est directement lié à la DZ Mafia et qui a servi d'intermédiaire, notamment dans le cas d'appel, et aussi le fait, notamment à la fois d'élus, mais aussi de tout un tas de fonctionnaires qui pourraient être soit corrompus, soit directement rattachés au groupe.
Oui, et puis j'aimerais bien qu'on revienne sur la notion de mafia.
Oui.
Parce que vous avez commencé par ça, Bastien, je trouvais ça très intéressant. Je pense qu'on peut expliciter un peu pour nos auditeurs que la différence entre un mafia et un cartel, vous sauriez nous le dire ?
Alors, je peux essayer de vous l'expliquer. Déjà, dans son fonctionnement, là ici, dans le cas du cartel et dans le cas de la DZN Mafia, on se rend compte qu'il y a une forme de triumvirate, mais peut-être plus encore. C'est-à-dire, en fait,
oui, au début, on nous parlait de trois dirigeants de la DZN Mafia. Maintenant, on nous dit qu'il serait quatre ou cinq.
Exactement.
Et peut-être même qu'on aurait affaire à une DZ Mafia nouvelle génération.
Et tous les cousins, c'est pour ça.
Et que cette nouvelle génération des DZ Mafia ne se reconnaît plus dans la génération précédente,
qu'ils
estiment endormie ou pas assez ambitieux pour faire de l'argent.
Exactement.
Donc on a de nouvelles ramifications.
Exactement, donc on a ce premier élément. Deuxième élément des cartels, c'est l'élément international et le fait d'investir d'autres champs et une forme de capillarité. On le voit dans le cas notamment des assassinats, où ils font appel à des jeunes via notamment des réseaux sociaux, hein, comme Snapchat, hein, des personnes qui sont payées pour assassiner. Donc là, on est plutôt dans le modèle de ce qu'on appelle les sicarios. Vous savez, hein, on a trouvé ça notamment au Brésil. C'est des gamins de 13-14 ans. On leur donne une arme, on leur donne un billet et ils vont assassiner comme ça. Donc, c'est des formes de tueurs à gages. Donc, la DZN Mafia fonctionne comme cela. Donc, elle n'a pas forcément ses propres tueurs, mais fait appel comme cela à des mineurs extérieurs qui sont payés pas très... une somme dérisoire pour aller commettre un assassinat. Et puis, il y a aussi le côté revendicatif que n'a pas forcément la mafia. La mafia, par essence, elle sert à être cachée. Vous savez, hein, dans le cas notamment de la mafia italienne, hein, je sais pas, on va voir la Camorra, la Ngreta. Souvent, les dirigeants qui sont attrapés, ce sont des personnes âgées qui sont dans une petite maison où il n'y a pas de téléphone, où il n'y a pas de réseau, au fond d'un jardin. Donc, il y a un côté très secret. Là où, à l'inverse, ici, sont vraiment dans la maîtrise de la communication et l'identité de marque. Donc, c'est pour cela qu'on est vraiment plus dans le modèle sud-américain et latin, latino, plutôt que dans le modèle italien.
Je vous propose qu'on écoute un petit bobino tout de suite et on revient tout de suite sur l'histoire de la DZ Mafia.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous sommes de retour pour cette deuxième partie du Libre Journal de la Plus Grande France de Benjamin Blanchard. C'est Jean Ernis qui vous le présentait aujourd'hui en remplacement d'Adrien Renoir. Nous abordons le sujet de la DZ Mafia, son fonctionnement comme un cartel plutôt qu'une mafia, malgré son nom. Nous poursuivons sur ce sujet. Peut-être que François voulait réagir à ce que vient de dire Bastien.
Oui, en effet, la question portée sur la différence finalement entre une mafia et un modèle basé sur les cartels. Effectivement, il y a en fait plus largement, il y a la dimension de la gestion de cette organisation. C'est-à-dire que derrière le terme de mafia, on imagine tout de suite quelque chose d'assez structuré, organisé avec des parrains, avec des lieutenants, avec des capitaines, avec des soldats, etc. Mais j'allais dire, c'est déjà un peu trop européen et un peu trop occidental et un peu trop ordonné, si vous me permettez cette expression, pour des gens qui se réclament d'une identité maghrébine, clairement, puisque il s'agit bien de l'Algérie. Je crois qu'il y a une dimension... Alors nous sommes en direct, je vais peser mes mots, mais il y a une dimension pour le moins ethnique, culturelle, mais vraiment ethnique quand même dans cette façon de faire, c'est-à-dire que se revendiquer d'office comme étant justement appartenant à un groupe social étranger, l'Algérie, et accoler ce terme de mafia pour être rien d'autre finalement qu'un commerçant de produits interdits, il y a cette idée que je vais venir dans ce pays étranger, pour moi, puisque je suis algérien et que je le revendique, qu'est la France, pour y faire des choses illégales et pour vendre en plus des choses qui sont mauvaises à des Français. Et à cette idée, évidemment, eu égard au passif et eu égard au récit porté par les autorités algériennes depuis 1962, sans vouloir tomber dans des vieux poncifs, voilà, j'ai absolument pas l'âge d'être membre de l'OS, mais néanmoins, quand on voit l'ambiance l'ambiance culturelle en Algérie, et quand on voit même la flagellation qu'ont offert nos propres dirigeants politiques, hein, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron, avant d'avoir Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur, et de simuler une guerre avec l'Algérie, s'est quand même déplacé là-bas en 2017, juste après son élection, pendant la campagne, je ne sais plus, et a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humanité. Donc, quand on est dans ce genre de récit, c'est pas étonnant ensuite que ce soit finalement en termes de vente et de, si vous me passez l'anglicisme, de marketing quasiment, très intéressant pour un groupe criminel de se revendiquer comme étant ouvertement algérien. Et je crois quand même que même si c'est sans doute pas ce à quoi ils ont pensé en premier, je crois quand même qu'il y a une symbolique assez forte et intéressante dans cette idée de venir et de finalement bordéliser un pays. Voilà.
Bah, si on voulait réagir.
Oui, effectivement, ça c'est intéressant parce que quand on le voit, notamment dans le cas des cartels, on sait que certains sont infiltrés par la CIA, ont même été financés justement comme un moyen aussi de déstabiliser des pays. Et dans le cas des Z-mafias, alors, il ne faut pas annoncer parce que pour le coup, on n'a pas de données sûres, mais quand on voit la position d'Alger, quand on voit la position de Tebboune, notamment à l'heure actuelle face à la France, voilà, où effectivement, maintenant, l'Algérie criminalise là, quand ça s'appelle les lois mémorielles et voilà, la contestation de la guerre d'Algérie, la colonisation française, ouais, il y a vraiment une dimension revancharde. Hein, et donc, ce n'est pas impossible que même les services secrets algériens se servent un petit peu aussi de ce genre de groupe pour déstabiliser un pays et faire pression sur le Quai d'Orsay ou sur le ministère de l'Intérieur.
Hein, c'est une vraie différence quand même. Tout à l'heure, tu parlais des Colombiens et notamment du cartel de Medellin avec Pablo Escobar. Je vois quand même une grande différence entre Pablo Escobar, plus proche de nous, les Mexicains qui sont en train de se faire rattraper, voilà, gentiment. Je vois une grande différence, c'est que eux font des activités criminelles dans leur pays, et j'irais même plus loin, ils font des activités criminelles dans leur village et dans leur sous-préfecture. Parce que Medellin, c'est d'abord la ville avant tout de la famille Escobar. Donc qu'est-ce que ça induit? Ça ne veut pas dire que la balle portée par les assassins est plus douce. Pas du tout. Néanmoins, il y a cette idée que, assez classique finalement, qu'il y a une part de mauvais dans l'homme et qu'en effet, dans une ville, il y aura toujours un méchant qui voudra devenir, qui sera le gendarme et voleur, quoi, voilà, qui voudra devenir le petit baron de la ville. On parle bien du cartel de Medellin avec Pablo Escobar à sa tête, qui a eu d'ailleurs des visées politique locale, et je crois que, alors, à quel point c'était effectivement du flanc, de la flûte, ce que vous voulez, mais je crois quand même qu'il y avait la volonté chez ces trafiquants, j'allais dire un petit peu vieille école, si vous me passez l'expression, de régner sur leur précaré chez eux, dans un phénomène culturel qui maîtrisait. Leur idée principale, c'était quand même d'envoyer de la marchandise, de la drogue, en l'occurrence, dans un pays étranger, les États-Unis. Donc, il y a toujours cette idée quand même d'offensive culturelle et d'offensive, j'allais dire, de santé publique, là, pour le coup, destinée à un pays qu'on n'apprécie pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, et on retrouve, alors évidemment, on m'opposera sans doute qu'en France, il y a les cités et que peut-être que les Z-mafias se sentent comme chez eux dans ces cités, qu'en effet, du coup, on peut tirer un parallèle avec Medellin de ce point de vue-là, et sans doute qu'il y a une part de réalité. Néanmoins, l'apparition de ce groupe, de ce cartel, appelons-le comme on veut, n'est rien d'autre que la conséquence à la fois d'un manque de courage mémoriel de nos autorités depuis 1962 et en même temps, tout simplement d'un manque de courage tout court sur le traitement des sujets criminels, sur le traitement des cités, sur le traitement de la prospérité finalement de ces groupuscules.
Ouais, je pense que ce deuxième point est pour moi le plus central, parce qu'on peut analyser en Europe d'autres phénomènes du même type. La mocro-mafia par exemple qui sévit aux Pays-Bas, donc le Pays-Bas n'a pas forcément un historique colonial avec le Maroc. Bien, c'est assez... On n'en a pas d'ailleurs. Et on a tous ces méfaits autour de la mocro-mafia, donc une mafia qui se proclame marocaine, qui a mis la main sur le trafic de drogue et qui étend ses activités maintenant aux enlèvements, aux rapts, des menaces avec des cautions, des choses comme ça.
Ils ont tué un juge, ils ont tué un candidat à l'élection présidentielle, etc. Ouais.
Effectivement. Et donc, tout ça, je pense que la DZ Mafia, c'est aussi le fruit de cela. Et... sur un territoire qui est historiquement lié à la drogue. On peut penser à Marseille et avec sa French Connection dans les années 70, mais de la même façon où le cartel de Medellin envoyait sa drogue aux États-Unis, la French Connection envoyait sa drogue également aux États-Unis par bateau à l'époque. On sait d'ailleurs tout les problèmes que ça avait créé avec la CIA, les problèmes diplomatiques, et où on nous avait bien expliqué à la France qu'il fallait mettre de l'ordre là-dedans avant qu'on mette de l'ordre dans le pays, si je peux me permettre.
Ce qui est aussi intéressant dans le cas des ZEN Mafia, c'est à quel moment le groupe s'est structuré. On garde souvent la date de 2019, qui est pendant la période Covid. Parce que justement, de nombreuses cités n'arrivaient plus à s'approvisionner, il y avait des petits contrôles et autres, mais eux, ils ont pu faire tranquillement leur business et profiter en fait de la période de confinement pour s'étendre et damner le pion à leurs rivaux. On se rappelle un petit peu des conflits qu'ils ont eus, et finalement, ils ont gagné grâce à ça. Donc, effectivement, ils ont des ressources que n'ont pas leurs autres groupes.
Alors, je ne crois pas qu'il faille être trop... toujours chercher le dessous des cartes, aller entre lignes, etc. Néanmoins, la DZ Mafia, pour celui qui s'intéresse au sujet criminel en France, on en entend parler depuis effectivement assez longtemps. Déjà parce que c'est eux qui sont à l'origine des grandes vagues de morts à Marseille, ouais. De par le fait qu'ils étaient en guerre, comme on dit, avec
contre
une autre
Yoda.
Mafia, ouais. Voilà, un autre groupe qui s'appelait Yoda. Donc ils ont fait preuve de moins d'imagination, parce qu'ils sont allés chercher dans la mythologie américaine pour leur nom de groupe. Enfin, passons. Donc, ce groupe est connu depuis un certain temps, on l'a laissé prospérer, on l'a surveillé de loin. Aujourd'hui, il y a un coup de filet qui est mené, c'est heureux. Voilà, j'imagine que le ministre de l'Intérieur a fait quitter les services de police, et c'est très bien, mais néanmoins, on s'interroge toujours sur la rapidité avec laquelle c'est fait, pourquoi ça n'a pas été fait avant, pourquoi ne les a-t-on pas suivis. Quand je vois la ténacité, la réactivité et l'efficacité des forces de police, notamment de la BRB, pour interpeller des militants qui portent une banderole, qui projettent une image sur un immeuble, etc., parfois dès le lendemain. Quand je vois les moyens déployés contre quelques jeunes identitaires qui déployaient une pauvre banderole contre Yann Nakamura au moment des Jeux Olympiques à Paris, et le procès qui s'en est suivi, je m'interroge quand même sur cette asymétrie. C'est-à-dire que, encore une fois, on montre bien qu'il faut 5 ans, 6 ans... parfois 7, 8 ans même, on pourrait dire, en ce qui concerne la ZEN Mafia, pour faire un coup de filet. Pour l'instant, c'est un coup de filet, on ne sait pas sur quoi il va aboutir. Mais une mise en examen n'est pas une condamnation, comme chacun sait. Il peut y avoir mille et un vices de procédure, mille et une procédures en appel. Enfin bon, le match est loin d'être terminé, tout le monde le sait, eux-mêmes le savent d'ailleurs. Et en prison, ils sont loin d'être... plus nocif, bien au contraire parfois. Donc si vous voulez, tout ça, encore une fois, tombe quelques semaines avant une élection municipale, un an avant une élection présidentielle, dans une société qui veut effectivement de la fermeté. Donc moi, j'ai du mal à ne pas y voir quand même une concordance des temps politique assez arrangeante pour les uns ou pour les autres. Et plus largement, je m'interroge quand même sur le traitement judiciaire et policier de ces groupuscules.
Vous permettez, messieurs, qu'on prenne un petit peu de hauteur sur la DZ Mafia, en rappelant, alors vous allez dire que je suis embêtant aujourd'hui avec mes chiffres, pourtant c'est pas mon fort, hein, j'ai jamais aimé les mathématiques, mais je pense que c'est important de rappeler que dans ce pays, on a 50% de la population qui déclare avoir déjà consommé du cannabis, et qu'on a des usagers réguliers, donc plus de 10 fois par mois, 1,5 million de Français qui consomment du cannabis plus de 10 fois par mois, et on parle de 30% des Français qui en consomment au moins une fois par mois. Donc on est quand même sur des chiffres qui sont qui sont effarants. J'ai pas d'autres mots pour les définir. Et pour ce qui est de la cocaïne, on parle de 10% des Français qui ont pris de la cocaïne dans leur vie, et avec des chiffres également assez hallucinants, pardonnez-moi de ce terme, mais où on estime que sur une année, on a à peu près 1 million de personnes qui en consomment. Effectivement, le marché de la drogue est important, donc ça aide également à l'extension de cette hydre qui est la DZ Mafia et les autres organisations de drogue en France. La drogue est partout, dans toutes les classes sociales. On parlait d'ascenseur social tout à l'heure. On sait qu'elle n'est pas le phénomène que de classe aisée et de classe bourgeoise. Elle est également le fait de classes plus en difficulté socialement. elle est également le fait pour certaines drogues, notamment la cocaïne. Il y a eu des enquêtes de très bonne facture sur les marins pêcheurs qui prenaient de la cocaïne, entre guillemets, pour tenir. La drogue est partout. Est-ce que, avant de vouloir endiguer la DZMAFIA, on n'aurait pas une question à se poser sur les consommateurs, selon vous ?
Si, bien sûr, il faut toujours se poser la question de l'élément de base d'un trafic, à savoir le client, en effet. Mais plus largement, alors on peut faire plein de choses. On peut pénaliser le client, on peut frapper encore plus fort au porte-monnaie. Je suis pas sûr que ça fonctionne réellement. Le fait que la consommation se soit autant démocratisée, notamment en ce qui concerne les drogues, j'allais dire, plus dures que le THC, donc le cannabis, je pense à la cocaïne et aussi aux drogues de synthèse, tout ça finalement rejoint assez bien la première partie de notre émission sur le manque de perspective, sur la dépression généralisée et sur les conséquences finalement assez, assez claires maintenant du nihilisme ambiant.
Ouais, totalement.
C'est là. Voilà. Ah oui, un nihilisme mortifère. Est-ce qu'on poursuit sur ce sujet ou vous souhaitez passer au dernier sujet de cette émission, messieurs ?
C'est vous le patron.
Bon, nous allons passer au dernier sujet de cette émission. On va parler des élections municipales, en rappelant toutefois que nous sommes dans une période de réserve, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de programme, on ne va pas parler de candidat, on ne va pas saluer la campagne d'un tel ou un tel, mais on va plus parler de cette élection municipale. Est-ce qu'après tout, l'élection municipale n'est pas la seule ou la dernière élection importante en France ?
Ben, effectivement, hein, je pense que c'est une question à se poser, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, hein, et notamment j'ai bien aimé l'exemple que vous donniez pour l'ascenseur social, où on part d'élu local pour ensuite devenir président de communauté de communes, puis ensuite député, sénateur, et après ministre. Hein. On se rappelle notamment dans les Yvelines, à l'heure actuelle, le président du Sénat, bah, d'où il vient, qui a un peu suivi un peu tout le cursus, si on peut dire.
C'est le cursus sonorum des frères 3 points.
Oui, voilà, exactement. Donc, cette question peut se poser, effectivement, dans le cas aussi où en France, on a un maillage qui est territorial qui est assez dense. On a effectivement le plus grand nombre de communes d'Europe, avec aussi cette difficulté. Hein. D'ailleurs, à chaque élection municipale, on a quelques communes qui disparaissent, puisque faute de candidats, faute de listes, hein, elles finissent par fusionner. Donc, c'est preuve qu'il y a aussi peut-être un désintérêt un petit peu local pour ces communes. On le voit notamment avec la mobilité, où des personnes comme ça investissent un lieu, ils restent 3 ans, puis ensuite s'en vont sans forcément territorialiser le lieu, sans forcément s'enraciner, si on peut dire. Hein. Donc je pense que par rapport à notre dimension, avant d'avoir d'autres ambitions, c'est peut-être déjà bien de repartir sur la base et sur le local.
Rappelons déjà les prérogatives d'un maire. Donc déjà, un maire, par essence, est bénévole. Alors il peut avoir une rétribution. On va le voir, on peut penser certaines mairies, les grandes villes, on a certains maires qui gagnent ce que gagne un cadre d'une grande entreprise, hein, plusieurs milliers d'euros par mois. Mais dans une petite commune, le maire, s'il arrive à se sortir 200 euros d'essence pour se rembourser dans le mois, il s'en sort déjà très bien.
Il y a une rétribution de 800 euros, en gros, pour les communes supérieures à 5000 habitants, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui est anecdotique et qui est quasi bénévolat.
Ce qui est quasi bénévolat. La commune, c'est quand même on parle plus d'école communale aujourd'hui, ce terme est désuet, mais malgré tout, les écoles communales existent toujours. C'est donc les écoles de petite section. On parle des enfants en bas âge, donc on apprend déjà à lire, écrire et compter. Ben, on est censé le faire, en tout cas. Dépendent directement du budget des communes ou des intercommunalités, si c'est le cas. On peut penser à la gestion de l'eau, on peut penser à la gestion des ordures, on peut penser à la sécurité. En somme, la commune, c'est un petit état. Tout le pouvoir régalien existe au niveau de la commune.
Bien sûr, et le PLU aussi, hein, qui est extrêmement important, notamment.
Le PLU, le plan local d'urbanisme, qui permet de rendre constructible ou non constructible un terrain.
D'interdire ou pas une éolienne.
Aussi, voilà, exactement. Le droit de préemption aussi, hein, sur certains lieux, c'est-à-dire un terrain mis en vente que la municipalité peut prendre le droit d'acheter. Je sais qu'à Paris, quelque chose fait beaucoup, mais ça peut être aussi un levier qui peut être assez intéressant si on veut éviter notamment, je ne sais pas, qu'il y ait un centre commercial, un McDonald's ou autre qui se construise. Hein, la mairie peut avoir par moment ces possibilités. Donc, il y a quand même des leviers qui sont assez intéressants.
C'est une élection, pour revenir à votre question initiale, Il me semble que c'est quand même une élection qui intéresse encore particulièrement nos compatriotes, notamment quand on compare les taux de participation. Alors nous enregistrons la veille de l'élection, donc peut-être que les faits me donneront tort ou raison, mais néanmoins, c'est une élection qui semble intéresser davantage les gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée, cette notion qu'effectivement, avec un plus la commune est petite, qui plus est, avec un maire qu'on a vraiment élu, qu'on a choisi, eh bien, peut-être les choses peuvent être plus rapides, plus simples, et qu'il y a quand même besoin de comprendre, de connaître son maire et de bien le choisir. Alors, parce qu'on parle du désintérêt et de l'absence de liste dans certaines communes, mais il y a aussi des communes de 800 000 habitants où on a 2, 3, parfois 4 listes et qui se livrent une véritable bataille pendant les alors évidemment on les citera pas, mais qui se livrent une véritable bataille pendant les campagnes municipales. Donc
avec la possibilité de panacher les listes dans les plus petites communes.
Voilà.
Ça c'est quelque chose, je sais pas si ça existe ailleurs dans le monde, peut-être, hein, je suis pas un sociologue, un historien de ce phénomène, mais dans les plus petites communes en France, on peut mélanger, rayer des noms, en ajouter un, c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire, et on peut se retrouver à avoir parfois 50, 60 voix sur son nom, alors que vous n'étiez candidat à rien, et ça a parfois des vocations de... dans certaines communes, c'est assez bon, marrant, c'est peut-être pas le mot, mais assez original.
Il y a besoin, je crois, c'est peut-être la dernière élection où c'est encore possible de participer à une campagne en produisant un réel témoignage sans être un grand parti avec des moyens nationaux. Alors évidemment, on ne peut pas citer de candidats ni de villes ce soir, mais c'est vrai que j'avais en tête quelqu'un qui a un prénom composé dans l'ouest de la France et qui a mené une campagne vraiment de terrain et qui a permis en effet d'ouvrir les vannes et de montrer qu'une autre dynamique est possible et surtout d'aller mettre des visages sur des idées, sur des noms. Donc, d'un point de vue qui serait celui de la stratégie militante politique, je crois que c'est très intéressant encore aujourd'hui de s'intégrer, de s'ingérer, d'essayer d'être présent sur ces campagnes municipales. C'est peut-être le dernier endroit où on peut encore faire de la politique politicienne sans que ce soit trop sale. Néanmoins, effectivement, il faut pas oublier qu'il y a une grosse dimension aussi de service, parce que être maire aujourd'hui, c'est un sacerdoce. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si la plupart sont retraités ou agriculteurs, c'est-à-dire vivant sur place, ayant la capacité et les moyens techniques et physiques de répondre à un certain nombre de choses. Parce qu'on croule à la fois sous les normes françaises, européennes et peut-être sans doute mondiales. Et blague à part, on coule aussi sous les obligations. Donc, c'est pas du tout un boulot facile. Néanmoins, ça suscite encore un certain nombre de vocations. Et c'est beau. Et ça montre aussi peut-être un reste de vitalité, quoi, dans ce pays. Encore cette envie de maîtriser son environnement le plus direct.
Je pense que vous avez signalé quelque chose de très 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 significatif, c'est le fait de pouvoir porter ses idées et d'un point de vue local. Là je m'adresse plus aux militants, notamment aux jeunes militants qui peuvent nous écouter, c'est qu'on a parfois la volonté, l'élection, j'allais être très vulgaire, l'élection ça fait rêver, voilà, j'allais être plus vulgaire et plus grivois que ça, mais l'élection fait rêver, c'est un but, on porte beaucoup d'espoir dans les élections, souvent trop d'espoir. C'est une drogue, l'électoralisme, avec ses soirées électorales à rallonge sur les plateaux de télé, avec des candidats qui parlent bien, d'autres qui parlent moins bien. On a nos têtes qu'on aime, celles qu'on aime moins. Ces petits moments où on passe dans les régions, on voit ces envoyés spéciaux devant telle mairie qu'on ne verra jamais notre vie, mais qu'on voit tous les 6 ans. Et c'est toujours un moment sympathique, même d'une ville militant, de regarder ces soirées électorales. Et où on regarde cette carte de France qui prend une teinte bleue, rose ou autre, et où c'est des soirées souvent d'espoir, parfois de chagrin pour certains. Mais ce qui est important à rappeler, c'est que toute l'énergie qu'on peut mettre pour un candidat, notamment aux élections présidentielles ou à des élections régionales, c'est une énergie qui est faite souvent à fond perdu. Pas toujours, mais souvent à fond perdu. Que cette énergie, lorsqu'on la met pour une élection municipale, on ne la met pas au fond pour un candidat ou un parti, on la met pour ses administrés et pour nos voisins en fait, et pour améliorer la situation de nos administrés. Et en fait, pour résumer, on fait le bien commun à petite échelle. Ben, on veut le faire en tout cas. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler On parlait tout à l'heure, lors de l'ascension sociale, de faire communauté, de projets communs. Les élections municipales sont typiquement le lieu de ce sujet parce que, par essence, la municipalité, c'est le lieu de la fraternité réelle. Je veux dire, on peut ignorer son voisin tous les jours. Lorsque son voisin met ses enfants dans la même école que vos enfants, un jour, vous aurez besoin de lui ou il aura besoin de vous. Et c'est en cela que l'élection municipale, je pense, est importante et qu'elle est importante pour nous, militants, parce qu'elle peut être le moment d'incarner nos idées concrètement, de leur donner une forme concrète, je leur dis ce mot, et qui est important, parce que l'idéalisme, les grandes idées, c'est bien beau, mais comment on les applique et comment on les explique aux Français de tous les jours, et c'est pas un gros mot dans ma bouche d'utiliser le terme français de tous les jours, à une personne qui est moins impliquée politiquement, pour qui l'idéologie politique ou la doctrine politique ne les intéresse pas, et on peut les comprendre, ils ont déjà suffisamment de soucis et de tracas au quotidien pour ne pas se rajouter ce poison qu'est la politique. Finalement, vous le disiez, François, on a des candidats qui sont engagés dans toutes les villes pour défendre des idées, et il faut les saluer et il faut leur souhaiter le meilleur demain.
Ouais, puis ce que je trouve intéressant dans les élections municipales, c'est une dimension un petit peu philosophique de l'action sur le court et moyen terme. C'est-à-dire dans le cadre d'un cadre de vie ou même des petits projets au quotidien, ça nous permet d'être tout de suite dans cette action et d'en voir les résultats. Ne serait-ce que, comme vous disiez, les enfants, les faire scolariser à l'école du village parce qu'elle est plutôt bien tenue et les voisins sont plutôt sympas. Pouvoir porter un projet de rénovation du gymnase avec l'ouverture, je sais pas, d'un club de rugby ou de créer une nouvelle association. Enfin, on a vraiment des petites choses comme ça au quotidien qui permettent, dans lequel l'ascenseur social nous font rendre vivants et nous permettent justement d'incarner un petit peu ce projet de ville. C'est-à-dire là où, effectivement, dans d'autres élections, ça semble à la fois trop abstrait et à la fois inconcret. Ah, si on pouvait faire un petit peu la différence. Ouais.
Et ce n'est pas les défis qui manquent à travers la France, puisqu'en effet, on évoquait tout à l'heure la désertification rurale. Aujourd'hui, devenir maire d'une commune de 2-3 000 habitants dans une zone rurale un petit peu perdue, c'est probablement un enjeu de trouver un médecin, pourquoi pas se battre pour qu'il y ait une déviation de tel ou tel national, etc. etc. Donc c'est potentiellement, effectivement, faire le bien commun au quotidien, d'accord, servir ses administrés, d'accord, mais ça peut aussi être un moyen de faire de la grande politique en remettant l'église au centre du village, en remettant la politique à la place qu'elle doit être, c'est-à-dire le service d'une communauté, l'avancée pour les autres, et donc en reconstruisant aussi ce monde qu'on aimerait voir revenir avec des communautés enracinées dans un lieu, capables de se projeter vers l'extérieur également. Donc je crois qu'il y a tout un champ des possibles qui existe autour de cette question municipale, que ce soit dans des zones effectivement rurales, même dans les zones périurbaines. Il y a plein d'exemples, y compris en Île-de-France, qu'on ne citera pas ce soir, mais il existe des villes et des villages tenus par des gens de bonne volonté qui sont d'ailleurs pas nécessairement toujours et même assez rarement des militants, mais qui, ne serait-ce que parce qu'ils sont gouvernés par certains le bon sens, d'autres peut-être aussi la foi, d'autres enfin tout simplement par une vision peut-être en effet plus politique, et bien tout simplement ont surpris leur monde et petit à petit font perdurer leur ville et leur village dans un état d'esprit typiquement français.
C'est d'ailleurs une des rares élections où on entend quelqu'un dire « moi je vote toujours à droite, là je vote pour un socialiste parce qu'il est là depuis 15 ans, il gère la ville correctement ». Parce que après tout, c'est le moment où les étiquettes ont le moins de valeur, encore moins que... et surtout depuis que le cumul des mandats est terminé. On avait souvent des députés maires, notamment dans des circonscriptions de province, c'est quelque chose qui se délite de plus en plus. Bon, déjà, le cumul de mandats l'empêche. Et donc, c'est quelque chose qui se perd, et c'est tant mieux, quelque part, parce que le maire est tourné vers son mandat de mairie, et surtout, bien souvent, il intéresse moins les grandes fédérations. Parce qu'un député, il est intéressant, parce qu'un député, il est dans un groupe parlementaire, un groupe parlementaire, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses, et c'est également une manière de porter une voix médiatique, c'est une manière d'être important. Que la municipalité, après tout, c'est de la gestion. Alors oui, hein, on a beau faire de citer les maires qui ont endetté les villes, qui ont fait des mauvaises gestions, des choses comme ça. Parfois, ils sont même plébiscités malgré tout par leurs électeurs, malgré des mauvaises gestions, malgré des condamnations, des choses comme ça. Malgré tout, cette élection, c'est le moment de la rencontre entre celui qui tient la ville ou qui veut la tenir à l'avenir et à ceux qui seraient indécis dans le vote, je ne saurais que leur conseiller de voir qui est réellement ici, qui a été parachuté, qui est sincère dans sa démarche, qui veut le bien des siens autour de lui, quelle que soit son étiquette même, qui est là véritablement pour être là.
Et puis c'est intéressant parce que les rares fois où effectivement cette élection a été un petit peu nationalisée, ou en tout cas a pris des tournures nationales, ça a été particulièrement intéressant de voir des idées très très belles sur les plateaux télé, défendues mais qui n'ont jamais été pratiquées, être mises en avant. Je pense à la vague verte hein, qui a eu lieu, alors c'était pas la précédente, c'était encore l'élection
2014.
Voilà, 2014, pardon, avec effectivement les mairies de grandes villes, hein, comme Bordeaux, comme Grenoble, voilà, je ne citerai pas le nom des maires, qui ont été emportés par les écologistes. Bon, les habitants de ces villes, le moins qu'on puisse dire, ont eu quelques surprises. Voilà, ont eu quelques surprises et se sont aperçus en effet que, entre le discours d'Eva Joly et ce qui se passe réellement quand on vote pour tel ou tel parti, eh bien effectivement, il y a des conséquences. Donc effectivement, c'est une élection qui est profondément faite pour être locale et même ces grands appareils l'ont compris.
Et parfois, c'est même plus que les habitants même des villes, c'est les habitants des banlieues autour qui le ressentent plus que les habitants des villes. On parlait des villes, c'est une très bonne transition parce que est-ce que cette loi PLM, donc la loi PLM, c'est la loi Paris-Lyon-Marseille qui fait que désormais les habitants des villes de Paris, de Lyon et de Marseille voteront en suffrage direct, choisiront leur maire directement, alors qu'auparavant on votait pour chaque arrondissement et les maires de chaque arrondissement votaient même pour un conseil qui permettait d'élire ensuite le maire de cette grande ville, de cette métropole. Est-ce que cette réforme, selon vous, est une bonne réforme ? Est-ce qu'elle redonne du crédit à ce scrutin dans ces villes ? Qu'en pensez-vous ?
Alors, c'est-à-dire que si on prend l'exemple parisien, qui parlera peut-être historiquement davantage effectivement à nos auditeurs, depuis de longue date, la mairie de Paris était vue quand même comme un genre de tremplin national. Évidemment, on pense en disant ça à Jacques Chirac, hein, qui est passé par la mairie de Paris avant pour se rendre un peu voilà, présidentiable, pour montrer qu'il avait su gérer une ville, etc. Néanmoins, effectivement, du fait que cette élection était indirecte, hein, donc c'est-à-dire que on ne vote pas au suffrage universel directement pour élire le maire, mais bien des gens qui vont eux ensuite l'élire, donc c'est une élection indirecte, ça avait tendance, pardon, à vraiment localiser et concentrer les différentes questions de civils, mais ça répondait aussi à une logique qui est une logique d'arrondissement, qui est une logique d'échelle. Hein, le 15e arrondissement de Paris, en termes d'habitants, c'est la ville de Bordeaux. Donc, c'est pas absurde d'avoir une élection d'un maire d'arrondissement. Le problème étant que ces maires d'arrondissement n'ont pas les mêmes pouvoirs que le maire de Bordeaux, précisément, typiquement. Donc, effectivement,
Et puis, ça pouvait donner comme résultat où un maire était élu maire de Paris, de Lyon ou de Marseille, en ayant une majorité au sein des arrondissements, mais une minorité en termes de pourcentage
tout à fait.
Dans la ville.
Tout à fait. Comme les Américains, c'est-à-dire le système de grands électeurs. C'est tu rafles la mise, mais au prorata, tu n'es pas forcément majoritaire.
Tout à fait. Bon, ça effectivement, c'est du débat sur la nature des suffrages. Et effectivement, cette loi PLM, je ne crois pas qu'elle soit faite par les dernières majorités en place, donc d'Emmanuel Macron. Elles n'ont absolument pas été faites pour faciliter la lecture que peuvent en faire les électeurs. Elles ont été faites pour que des petits partis n'ayant aucun ancrage local, comme le parti d'Emmanuel Macron, puissent effectivement prétendre, et c'est le cas. On n'a pas le droit de citer ce candidat, mais on voit bien à Paris, par exemple, aujourd'hui, on parle, les derniers sondages avant la clôture de cette campagne parlaient de potentiellement 4 à 5 candidats au second tour avec des gens qu'on ne peut pas citer, mais qui effectivement font partie d'organisations qui jamais n'auraient pu prétendre, ne serait-ce qu'à être vraiment en bonne position dès le premier tour à Paris.
Donc, ou même à être élu dans un conseil municipal d'arrondissement.
Voilà, tout simplement, ouais, tout simplement. Donc ça a vraiment ouvert les vannes. Je ne crois pas qu'on ait vraiment gagné sur la qualité du débat. La dernière campagne, si on prend l'exemple de Paris, en est vraiment le témoin. Elle a été caricaturale, ridicule. Et,
aucun débat entre les grands candidats à Paris.
Aucun débat entre grands candidats. Il y a eu des...
À Lyon, le maire sortant n'a pas voulu se présenter face aux autres candidats pour débattre. Le débat qui a eu lieu à Marseille entre tous les grands candidats
a donné lieu à de grands moments.
On le regardera dans quelques années en se disant que la démocratie française était grande à l'époque alors qu'elle était déjà bien basse.
Donc si vous voulez, bon, je ne crois pas que ça ait tellement élevé le débat. À quoi cela va servir ? Sans doute que le maire élu ou la maire élue aura une légitimité, en tout cas sur le papier, bien plus forte, puisqu'élue au suffrage universel, ça sera effectivement plus confortable pour la personne en question pour diriger sa ville. Néanmoins, comme il n'y a pas eu d'affrontement de programme, ça a en quelque sorte nationalisé les campagnes de ces grandes villes. Et d'ailleurs, on le voit, là encore, sans citer de candidats ou de candidates, mais on a bien vu à Paris que l'élection municipale était l'occasion de se placer dans l'esprit médiatique, dans l'esprit aussi des électeurs, de commencer à se placer, à se replacer, peut-être à se recentrer pour certaines, en vue des élections présidentielles.
Et on a un phénomène qui est... On parlait, l'élection municipale, c'est le moment des projets, c'est le moment de porter une parole et d'incarner de la politique. À Paris, à Lyon et à Marseille, c'était surtout le moment d'accuser son adversaire de petites phrases, de déterrer des messages postés sur tel ou tel réseau social il y a 6 mois ou il y a 10 ans. C'était l'occasion de régler des comptes, c'est l'occasion d'être sur de la grande... D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est de voir que dans ces villes prospères et riches, on a le temps de parler d'idéologie, de transsexualisme ou de choses comme ça, alors que dans une ville de 1000 habitants, on est plus à dire est-ce que les trains circulent toujours, est-ce que l'eau est bien acheminée, quid d'avoir un bon service public des ordures ménagères qui sont de plus en plus chères dans toutes les communes où il y a de moins en moins de services. On parle de communes où dorénavant, il faut aller déposer ces déchets à plusieurs kilomètres pour qu'ils soient ramassés. Dans des communes, on a parfois des personnes âgées sans véhicule, sans moyen de locomotion ou qui sont en mobilité réduite. Tous ces sujets-là n'ont pas été des sujets du tout évoqués dans les grandes villes. Ou alors on parle de projets titanesques, délirants. Et finalement, on le voit dans ces grandes villes, cette élection est bien moins utile parce qu'elle est décorrélée du peuple et décorrélée des préoccupations des Français. Et c'est en ça que le fait de s'installer, pas de s'installer, mais le fait de se présenter chez soi auprès des siens a bien plus de poids que le fait d'espérer briller à côté d'un soleil à Paris.
Dans les grandes villes, j'encourage les auditeurs qui souhaitent découvrir ce que peut être malgré tout la politique dans ces grandes métropoles, eh bien, il faut se rendre au conseil de quartier. Conseil de quartier à Paris ou dans les communes limitrophes, c'est très enrichissant dans sa compréhension de la politique. C'est l'endroit où ça se passe, où effectivement il y a un élu face à la population. C'est là que les claques se donnent et c'est encore peut-être les endroits où le suffrage pour le coup est très direct, y compris dans son expression.
Et puis toutes les mairies, ça a été initié par les mairies de gauche à la base et maintenant c'était repris massivement. On sait, comment dire, ces votes. Ces comités consultatifs où on vote pour des projets et pour des subventions, pour installer un banc ici, rénover tel parc public. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une vraie bataille de petites lobbies, de petites associations qui disent nous on veut les cours de Zumba remboursés par la mairie, et en face on a l'autre qui dit nous on veut les cours d'espéranto, et c'est à qui fera le meilleur lobbying dans la ville qui obtiendra la subvention. Et on parle parfois dans certaines villes d'1%, de 10% du budget de la commune. On parle d'argent réel. Si vous êtes dans une grande ville, investissez-vous sur ces projets-là, qui sont des projets concrets, qu'on peut défendre parfois sous certaines facettes. Je me souviens de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay qui avait mis la rénovation de ses œuvres d'art dans le cadre du budget participatif de la ville de Mairie. Et qui avait reçu beaucoup beaucoup de suffrages. Alors après, ça passe toujours entre les fourches codines du comité central. Hein. On va quand même pas ne prendre qu'en compte les votes, mais toujours est-il que certains projets peuvent être menés, et parfois des projets qui peuvent être utiles pour tous. Une aire de jeu pour les enfants, peut-être une aire de jeu, peut-être... un endroit pour boire de l'eau, des toilettes dans les villes.
Un stade de rugby. Oui,
par exemple. Messieurs, je vous remercie. C'est une émission très enrichissante. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de conclure sur les élections municipales ou sur autre chose? Je sais que c'était mi-carême il y a quelques jours.
Peut-être effectivement tirer un coup de chapeau à ceux d'entre nos camarades qui ont fait l'effort de s'investir dans cette campagne municipale. On ne peut pas les citer, on ne peut pas les nommer, mais... On pense évidemment fort à eux, à la joie, voilà, des illusions qu'ils connaîtront demain, mais je suis sûr que les deux seront passagères parce que, en effet, le projet qui doit nous porter dépasse largement effectivement une victoire électorale. Néanmoins, bravo de l'avoir fait à ceux qui l'ont fait et bon courage à ceux qui le feront plus tard.
Peut-être un mot
Non, écoutez, merci de m'avoir invité pour cette émission, c'était un plaisir. Et puis, de la même manière, faut qu'on garde un petit peu espoir, hein, malgré l'ascenseur social qui est un petit peu en panne. Pour autant, on a eu un petit peu des perspectives et effectivement, se tourner vers le local, les élections municipales.
Voilà, je pense que c'est, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Prenons ce chemin, chers auditeurs. le chemin que j'ai pris aujourd'hui en me rendant, par exemple, au congrès du bien commun d'Academia Christiana, qui fut un réel succès avec des centaines de jeunes en plein Paris qui se réunissent pour parler du monde de demain. Bravo à eux. J'ai également une pensée pour ce père libanais qui est mort, tué par les bombes au Liban ces derniers jours. Nous n'avons pas parlé de ce sujet volontairement, c'est pas pour ça que nous ne pensons pas à nos amis libanais qui sont sous les bombes actuellement. Et un petit signalement à nos amis auditeurs avec la parution du dernier numéro de Zentromag, le numéro 23, qui parle de tourisme, de l'âge de bronze ou encore de Maurice Bardèche, un numéro éclectique et un numéro que vous pouvez vous procurer dans les bonnes librairies ou en adressant un courriel à zentromag@gmail.com. Je remercie Benjamin Blanchard, Adrien Renoir, vous chers auditeurs et Jocelyn à la technique pour cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, par avance un bon dimanche et un très bon match au 15 de France.
Bonne journée, les bleus.
Et bon dimanche.
Vous venez d'entendre le libre journal de Benjamin Blanchard, dirigé successivement par Benjamin Blanchard puis Jean Hernis, et diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 14 mars 2026 de 18h à 21h, réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.